Bac FM, il est 10h30, je m'appelle Théo, je suis avec Marie et Laetitia, on est parti pour notre rendez-vous ciné de la semaine. Ça s'appelle Action et c'est le premier de l'année, on est parti, jingle.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Moteur.
Et bonne année. J'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire. Meilleurs vœux à vous qui nous écoutez, chers auditeurs de Bac FM. Une année cinématographique qui commence aussi avec les premières sorties de cette année aujourd'hui. On va revenir évidemment dessus juste après le classement du box-office et la chronique de Marie. L'anniversaire d'une célébrité, ça arrive tout à l'heure. Bonjour Marie.
Bonjour Théo.
Bonne année.
Merci, à toi aussi.
Meilleurs vœux.
De même.
On va fêter l'anniversaire de qui en ce 4 janvier ?
Donc aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire de Emma Mackey.
D'accord, qui joue dans Sex Education.
Tout à fait,
on la connaît surtout pour ça.
C'est ça.
Et puis en fin d'émission, évidemment, tu sortiras un film de ton grenier. Laetitia est en technique pour assurer cette émission et reviendra sur un film en particulier qui marche bien tout à l'heure. Bonjour Laetitia, bonne année à toi, meilleurs vœux.
Bonjour Théo, bonjour Marie, meilleurs vœux à vous aussi, plein de bons films.
Une année cinématographique qui nous attend, il y a des films que t'attends peut-être.
Ouais, il y en a quelques-uns, j'avoue. Ouais.
On va parler d'Insidious 5 aussi tout à l'heure.
Par exemple.
Le box-office dans quelques instants, les sorties ciné avec le retour d'Omar Sy sur les écrans. Et puis pour la dernière émission, avant les vacances, on était revenu sur cette année cinématographique 2022 avec les films qui nous avaient marqués. Et bien tout à l'heure, on verra ensemble les films à venir sur cette année, les grosses productions et des films relativement étonnants. Par exemple, un remake du film de charme Emmanuel qui revient au cinéma, on en parle tout à l'heure. Billie Eilish, c'est ce qui arrive aussi avec Bad Guys. Elle sera en concert live au ciné Mazarin fin janvier. Une salle pleine, c'est vu d'avance. Mais des salles pleines, justement, il y en a eu. Et pour un film en particulier, on en parle tout de suite.
Le deuxième volet du film Avatar réalise de très bons débuts au cinéma.
Ans après le premier volet, Avatar signe un retour triomphal. C'est l'un des 20 meilleurs démarrages du siècle. Il permet à Disney de franchir la barre des 4 milliards de dollars de recettes au box-office en 2022.
Et oui, hein, c'est le carton de l'année, Avatar 2, la voix de l'eau. Alors, oui, on en parlait avant les vacances, mais on ne s'attendait pas à un tel succès quand même. On pensait, on savait que ça allait marcher, mais pas à ce point-là. 3 millions d'entrées en plus en une semaine, un total de 8 750 000 entrées uniquement en France. Le deuxième volet de la saga, attendu pendant 13 ans, passe devant le plus gros succès de 2022, Top Gun Maverick. Dans le monde, c'est à l'heure actuelle une recette, donc on vient de le dire, qui est énorme. C'est moins que le premier qui avait atteint la barre des 2 milliards, mais c'est déjà énorme. Avatar, la voix de l'eau, c'est encore disponible au ciné, Mazarin bande-annonce.
Qu'est-ce qui t'amène chez nous ?
Je veux mettre ma famille en sécurité.
Traitez-les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages.
Suis-nous, garçon de la forêt !
Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture.
On y va !
Respirez, respirez.
Protégez notre peuple !
Finissons-en.
Avatar, la voix de l'eau, c'est encore à l'affiche de votre ciné Mazarin et c'est évidemment le numéro 1 du box-office cette semaine. Le reste du box-office, il est relativement varié. Le Chapoté, deuxième volet des aventures donc du chat de l'univers Shrek, est classé deuxième avec 500 000 nouvelles entrées et a profité des vacances hein, pour accueillir le jeune public, à l'image également d'Enzo le Croco, Ernest et Célestine, ou même Le Royaume des Étoiles. Tous ces films d'animation que l'on avait évoqués avant les vacances sont actuellement dans le top 10 du box-office français. Tempête, le film sur le monde équestre et plus particulièrement le combat d'une jeune fille remontée sur son cheval à la suite d'un accident, est quatrième. Pio Marmaille, Carmen Kassovitz et Mélanie Laurent accumulent presque 500 000 curieux dans les différentes salles de France. Seulement, deux nouveaux films se classent dans les 5 premiers et, surprise ou pas, le troisième de ce classement est un film d'horreur, l'histoire de Mégane, une cyber-poupée dont l'intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et la plus sûre alliée des parents. Conçue par Gemma, la brillante roboticienne d'une entreprise de jouets, Mégane peut écouter, observer et apprendre tout en étant à la fois l'ami et le professeur, la camarade de jeu et la protectrice de l'enfant. L'histoire, en fait, ça part de quand Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce de 8 ans qui s'appelle Kelly, dont les parents sont soudainement décédés. Elle n'est absolument pas prête à assumer son rôle. Débordée et sous pression au travail, elle décide de lier le prototype Mégane, encore en développement, à la petite fille dans une tentative désespérée de résoudre ses problèmes sur ses deux fronts, une décision qui va entraîner d'épouvantables conséquences. Laetitia, t'avais prédit, toi, avant les vacances, un certain succès pour ce film.
Oui, il y a quand même un petit succès autour. Alors, et par contre, les gens, moi je ne l'ai pas vu, mais les gens qui l'ont vu, d'après ce que j'ai pu en entendre, ils ne sont pas forcément hyper emballé, tous convaincus. Ouais. Il y a des retours un peu mitigés. Il y en a qui ont beaucoup aimé, d'autres un peu moins. Il y en a beaucoup qui trouvent que le film n'est pas assez flippant.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est essentiellement les critiques presse aussi qui donnent ça, hein. C'est que le film, il fait pas assez peur, ouais.
Mais le public est quand même au rendez-vous, hein, je pense.
Mais ça revient beaucoup, là, les films d'horreur, je trouve. Le cinquième de ce box-office, c'est l'histoire vraie de cette chorale senior qui chante du rock. On en avait parlé aussi avant les vacances, c'est avec Mathilde Seigné, et figurez-vous que ça fait un joli démarrage. Avec 130 000 entrées en première semaine, c'est encore à l'affiche de votre ciné Mazarin, et je vous propose de réécouter la bande-annonce de cette belle histoire, vraie.
Oh, fini pour moi.
Maman, papa il dit que t'es une galérienne.
Notre projet, c'est d'offrir un concert rassembleur et émouvant.
Vous montez une chorale de vieux. C'est payé comment ? Un, deux.
Sur mon venant d'un valier
collé. Ok, c'est bon.
Vous avez fait autre chose que de la belote et du tricot ici ou quoi ?
Les comptines, c'est bien, mais ça sent un peu la naphtaline.
Moi, je veux faire du rock.
Alléluia ! Un, deux, trois.
Faire chanter du rock en chorale à des amateurs du troisième âge ? Mais vous avez perdu la tête ?
Jusqu'au bout, ça se répète. Choudigo, choudissez.
Il y a quelque chose contre les clashs.
Qu'est-ce que ça peut lui foutre à l'autre ? Qu'on chante du rock ou autre chose ?
Ça rentre pas dans la case.
La case vieux ?
On a quand même tous l'âge de Mick Jagger. En quelques semaines, ils ont appris à chanter, à bouger, à tenir tête au public et à s'assumer. Et en plus, ils ont donné de la joie. Vous donnez quoi, vous ? À part du mépris ?
Vous et vos choristes, vous êtes virés.
Me dis pas que t'as pas envie de le faire changer d'avis, le costume trois pièces.
Bien vu comme elle nous regarde.
Pas comme des crotons, pas comme des boulets.
T'en as croisé beaucoup de comme elle depuis que t'es à la retraite.
Cœur de rocker, c'est encore à l'affiche de votre ciné Mazarin. Voilà donc pour l'ensemble de ce box-office. À noter la déception, pour deux films qui démarrent très mal. C'est Le Parfum Vert avec Sandrine Kimberlin et Vincent Lacoste. Et le biopic aussi sur Whitney Houston. Alors je suis assez étonné, la critique déplore la simplicité du scénario et le manque d'originalité. C'est pourtant scénarisé par les mêmes scénaristes que Bohemian Rhapsody. Et l'autre chose qui déçoit, c'est le choix de ne pas montrer le côté obscur de l'actrice. On l'avait juste évoqué avant les vacances, je vous propose la bande-annonce donc de ce film sur Whitney Houston.
Ladies and gentlemen, please welcome Whitney Houston!
C'est une critique qui revient souvent sur vous et votre musique. On dit que vous êtes une vendue.
Et depuis quand c'est les autres qui m'imposent qui je dois être ?
La musique n'a pas de frontières. Je chante ce que je veux. Je décide qui je veux être. Et je veux toucher un public aussi large que possible.
Il n'y en a pas deux comme toi. Tu as une voix unique.
Whitney, tu es ma petite princesse. On s'occupe de développer ta carrière. Tout ce que tu as à faire, c'est chanter.
Papa, mon argent. Je te faisais confiance. Tu étais censé me protéger.
Vous deux, vous passez beaucoup de temps ensemble. Ça nuit à l'image de la marque.
Depuis quand ta fille est devenue une marque? J'ai loupé un épisode.
Te prends pas la tête avec ça. T'es Whitney Houston.
Ça t'a fait quoi? Tous ces témoignages d'amour de ces millions de gens. J'ai jamais rien ressenti d'aussi fort.
I Wanna Dance with Somebody, le biopic sur Whitney Houston, c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Voilà, pour le classement du box-office, Billie Eilish arrive dans quelques minutes juste après que l'on souhaite l'anniversaire à Emma McKay, mais Emma... Marie, pardon.
Je voudrais bien.
J'ai confondu les deux. Qui est Emma McKay?
Bah du coup, comme tu disais, donc aujourd'hui, mercredi 4 janvier, on souhaite l'anniversaire d'Emma McKay qui fête ses 25 ans. Donc c'est une jeune actrice franco-américaine à la carrière... assez prometteuse, hein, on va pouvoir le voir tout de suite, que vous connaissez sûrement pour son rôle dans la série Netflix Sex Education, comme tu le disais.
Oui, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est dans Sex Education qu'elle a été... c'est une série qui a eu un franc succès envers le jeune public.
Et c'est d'ailleurs la série qui l'a révélée aux jeunes et au grand public et qui lui a ouvert les portes d'Hollywood. Et c'est donc en 2019 qu'on la découvre dans cette série créée par Laurie Nunn, je pense que ça se prononce comme ça. Ah, moi, la prononciation des noms... en 2023, ça ne changera pas, hein. Et qui, à ce jour, donc, comporte 3 saisons. Une série qui est toujours d'actualité, puisqu'aucune information sur une potentielle fin n'a été communiquée. Et donc, on découvre Emma dans la saison 1, sous les traits de Maeve, une jeune lycéenne rebelle et émancipée qui va monter avec son camarade de classe une cellule de thérapie sexologie au sein du lycée. Donc cette série qui se veut être une comédie dramatique mais aussi une porte d'ouverture à l'éducation sexuelle pour les plus jeunes, et la plupart des épisodes d'ailleurs se concentrent sur des problèmes et des questions que peuvent se poser les adolescents, et bien sûr le personnage d'Emma n'y échappe pas. Mais bon, en 2020, on la retrouve au cinéma dans The Winter Lake. Donc là, ça y est, on passe au cinéma. Mmh. Et donc un film de Phil Sheeran. Et donc ici, on change d'ambiance radicalement et on laisse tomber le côté léger des problèmes d'ado pour basculer dans le thriller psychologique. Donc ici, on suit l'histoire d'un jeune qui découvre les restes du corps d'un bébé dans un lac près de chez lui, hein, vraiment rien à voir. Et il semblerait que ses deux voisins, un père et sa fille, ne soient pas étrangers à cette affaire. Donc Emma y joue ici Holly, la fille du voisin, qui sera prise entre mensonges et violence au milieu de ce que la nature humaine fait de pire.
Mais elle a, même déjà dans Sex Education, elle a un petit peu un rôle. Alors c'est une série très colorée,
oui,
très... mais elle a toujours un rôle sombre.
Petit peu plus sombre. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on peut remarquer, c'est que même si ces deux œuvres n'ont vraiment rien à voir, tout à fait, on se rend compte qu'elle a déjà un petit appel pour les rôles un petit peu plus sombres, un petit peu plus
renfermés sur elle-même,
des personnages un petit peu plus torturés, puis dire.
Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, on remarque autre chose, c'est que malgré le fait que sa carrière soit encore récente, hein, on voit tout de suite qu'elle affirme déjà un statut de rôle de premier plan. Hein, parce que le personnage de Holly est un personnage central et le personnage de Maeve est aussi un personnage.
Ouais, c'est le
personnage principal. Bref, en 2021, on peut retrouver à nouveau Emma dans le film Eiffel de Martin Bourboulon.
Ah oui.
Donc une production qui retrace de façon un petit peu romancée la construction de la tour Eiffel.
Avec Romain Duris.
Tout à fait. Le film est aussi et surtout une histoire d'amour, puisque la relation interdite entre Gustave Eiffel et son amour de jeunesse Adrienne, eh bien c'est ça qui va lui inspirer à l'architecte de créer la tour que nous connaissons tous. Et Emma McKay, donc, qui joue ici Adrienne, et par conséquent la muse de Gustave, bien qu'elle soit déjà mariée à un de ses amis. Et c'est son inspiration principale dans sa quête de perfection, surtout pour cet homme qui est mis sous pression par le gouvernement pour produire quelque chose d'incroyable pour l'exposition universelle. Et donc, dans un sens, est-ce qu'on peut dire merci à Emma sans qui on n'aurait pas la tour Eiffel?
Ah, peut-être.
En 2022 sort Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, un film basé donc sur le livre d'Agatha Christie du même nom et qui fait suite au Crime de l'Orient Express du même réalisateur sorti en 2017. Et donc ces deux films qui ont comme protagoniste le détective Hercule Poirot. Donc encore une fois, on change totalement de registre hein, pour Emma, puisque ici, elle incarne Jacqueline, une jeune femme dont la meilleure amie, la riche et célèbre Lynette, lui a volé son fiancé, et depuis, elle les poursuit partout où ils peuvent se déplacer jusqu'à s'inviter à leur mariage en Égypte et sur le bateau qu'ils affrètent pour eux et leurs invités. Malheureusement, c'est pendant ce même tour en bateau qu'un drame a lieu et que Hercule Poirot présent pour rassurer les jeunes mariés, devra mener l'enquête. Donc encore une fois, un rôle de premier plan pour Emma, qui fait partie des personnages principaux, mais bien sûr, je ne donnerai pas de détails sur la résolution du film pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et plus récemment alors, eh bien, on a pu voir Emma dans Emily de France O'Connor, sortie en 2022, et qui est un biopic sur la vie d'Emily Brontë, l'autrice de Les Hauts de Hurlevent, et où notre chère Emma incarne le personnage principal. Bref, une carrière encore jeune, hein, mais qui promet déjà beaucoup de choses, vu sa cadence soutenue. Hein, quand même, un film par an depuis 2019, c'est
oui,
pas rien.
Oui, ça commence à faire. Ouais.
Voilà, surtout que l'actrice n'a pas l'air prête de s'arrêter, puisqu'elle aura un rôle dans le film Barbie de Greta Gerwig, prévu pour cette année.
Ah, et alors là, Marie est aux anges.
Aux anges peut-être pas, mais j'ai hâte de la voir dans ce film. Donc on reste à l'affût pour découvrir toujours plus cette jeune femme qui semble être promise à un bel avenir au cinéma. Et voilà.
À seulement 25 ans. Et on lui souhaite un joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, Emma, si tu nous écoutes.
Merci, Marie. Dans quelques instants, on revient sur les sorties ciné du jour, juste après Billie Eilish. Vous êtes sur Bac FM, bougez pas. Ah bah oui, c'est la fin de la chanson, ça s'arrête
oui,
comme
oui,
ça,
oui,
dis donc. Bad Guys, vous êtes sur le 106.1 de Bac FM, merci de nous avoir choisis. Ah, j'ai été surpris là.
Ah bah oui, j'ai vu ça.
Si vous avez aimé ce son de Billie Eilish et que vous avez été surpris comme moi de cette fin brutale, eh bien sachez qu'elle sera au ciné Mazarin, retransmission de son concert, c'est le vendredi 27 janvier à 20h, vous pourrez peut-être voir Marie, elle vient de me dire hors antenne qu'elle ira certainement.
Peut-être.
Tout de suite, on passe aux sorties ciné du jour, jingle.
Pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Et voilà, on a les droits.
Et voilà, on a les droits. Et en sortie cette semaine, un film événement qui marque le retour de Marcy sur grand écran. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais avant, on repart au mois de juillet, en été. Cet été-là, c'est le nouveau film d'Éric Latigo qui a notamment réalisé La famille Bélier. Cet été-là, c'est l'histoire de Dune et Mathilde, deux jeunes filles de 11 et 9 ans qui partagent l'entrée dans l'adolescence. Elles passent l'été ensemble dans les Landes où se rejoignent leurs parents, mais Dune va vite se rendre compte qu'un secret réside au sein de ses vacances. Le réalisateur raconte comment est né le film et le rôle des deux jeunes actrices Adèle Wism et Rose Pou-Pélissier.
Il est né par la lecture d'un livre que m'avait procuré Alain Attal, mon producteur, et à la lecture de ce livre des deux sœurs, enfin non, des cousines japonaises, j'ai craqué complètement et j'ai appelé très rapidement Delphine Glaise et on est parti en écriture sur cette belle aventure. Elles sont les protagonistes du film, c'est vraiment Rose qui est l'héroïne et juste après c'est Juliette en temps de tournage et en temps de présence à l'image et voilà, donc on voulait créer un monde d'adultes autour et pour voir comment elles allaient résonner en face de ce monde.
Cet été-là, c'est à l'affiche dès aujourd'hui dans votre ciné Mazarin. Et puis, l'Italie est à l'honneur cette semaine avec deux films. Le premier, Nostalgia, un film dramatique où l'on suit Felice qui retrouve dans sa ville natale, Naples, après 40 ans d'absence et où il retrouve certaines marques du passé qui le rongent. Une critique presse unanime sur la qualité de ce film. Et puis, l'autre film, c'est Les Survivants. Denis Ménochet joue Samuel. Samuel, il part s'isoler dans son chalet dans les Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme afghane jouée par Victoire Dubois vient se réfugier chez lui. Il décide de l'aider mais va vite se rendre compte qu'elle devra lutter contre l'hostilité de la nature à cause de la neige, mais aussi de celle des hommes. Ça s'appelle Les Survivants et c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Nostalgia n'est pas à l'affiche par contre du ciné Mazarin, lui. Voilà, si vous voulez aller le voir, il faudra aller à Bourges par exemple.
Ah.
Voilà. T'es amoureuse toi, Marie, quand t'avais 16 ans ou pas?
Je me rappelle plus.
Oh bah c'est pas si vieux que ça quand même, Marie.
Alors,
là,
si je me
elle nous a
plus.
Fait le discours. Non, mais elle nous a fait le discours quand même là de la personne. Oh là, 16 ans.
Non, mais si je me rappelle plus, c'est que. Ah non, si, oui.
C'est que mon copain écoute, moi, ça.
Non, si, à 16 ans, si, j'étais amoureuse parce que j'étais avec la personne avec qui je suis encore aujourd'hui. Donc, oui, j'étais amoureuse.
Félicitations, Marie.
Merci.
16 ans. Je vais te dire pourquoi je te pose cette question.
Vas-y, dis-moi.
C'était pour faire l'accroche au prochain film qu'on va parler. 16 ans, c'est le titre du film de Philippe Lioret, où l'on suit l'histoire amoureuse compliquée de Nora et Léo. Une histoire d'amour qui amènera des problèmes entre les deux familles. Bande-annonce.
Tu vas te faire mal aux yeux à regarder les gens comme ça.
Hein. C'est pas les gens que je regarde. C'est Nora ton prénom, c'est ça?
Léo, moi.
Tu serais pas Bélier par hasard?
Pourquoi?
Parce que tu lâches pas.
Tu sais qui c'est lui? C'est le fils du directeur de l'hyper. Son connard de père, il m'a viré.
Putain, mais t'as fait quoi encore?
Tu traînes plus avec lui, point final.
Il paraît que t'as viré un type à l'hyper. Parce qu'il a piqué une bouteille. Et on vire quelqu'un pour ça.
C'était qui les autres? Des crétins qui t'ont dit que ça serait une grande idée d'aller tout péter pour te venger, c'est ça?
Je me suis pas vengé, je vous dis.
Léo?
Bon, ok, 100 balles.
Arrête, ça va pas ou quoi?
À ton âge, on fait pas ça. Une fille, ça fait pas ça.
C'est la honte, ça. Jamais je te le pardonnerai, ça.
Mon père, c'est que je suis allée chez toi. Il faut plus qu'on nous voit ensemble. Je t'expliquerai.
C'est toi qui la surveille.
Moi, je te dis que tu me pètes les couilles. Ça te va comme ça?
Tarek! Oh non!
Puisqu'on peut pas te faire confiance, tu sors plus. Puisque tu te prends pour une femme, tu vas en mettre une maintenant.
Putain, Léo, si je quitte le lycée, je remettrai plus les pieds.
J'ai rendez-vous au centre d'action sociale jeudi soir. Vous voulez pas venir avec moi? Faut pas l'empêcher d'aller au lycée, monsieur. C'est moi, j'y retournerai plus.
T'as assez fait de mal comme ça.
Laisse-moi!
Vous n'avez pas été amoureux, c'est dans vous.
16 ans, c'est disponible au ciné Mazarin dès aujourd'hui. Et puis on termine ces sorties ciné avec le film Événement et le retour d'Omar Sy au cinéma. On en avait déjà un petit peu parlé avant les vacances, il sort aujourd'hui, nous sommes en 1917. Bakary Diallo, joué par Omar Sy, s'engage dans l'armée française pour rejoindre son fils Tierno, joué par Alassane Dong, recruté lui de force. Ils vont devoir ensemble affronter la guerre et la fougue de certains, de les envoyer au cœur de la bataille. C'est un film de Mathieu Vadepied et c'est Omar Sy qui parle de la création et donc de ce bel hommage aux tirailleurs sénégalais extraits.
Ce film-là, le départ, c'est Mathieu Vadepied, donc le réalisateur, et il avait cette idée de film, et que peut-être qu'il écrirait un truc comme ça, hein, qu'est-ce que j'en pensais, est-ce que, en tant qu'acteur, c'est un truc qui pourrait me plaire. Et cette discussion, en fait, elle s'est poursuivie comme ça, pendant 10 ans, et c'est devenu 10 lignes, et puis un synopsis, et puis un traitement, et puis des scénarios de version en version en version en version. Mon rapport au film a changé, j'ai quitté le projet, je suis revenu d'abord en tant que producteur, puis je suis redevenu acteur aussi. Enfin, il y a un truc très organique qui s'est fait dans le temps, tout doucement, qui est finalement très ressemblant à Mathieu Vadepied.
Puissant, émouvant, terrible, une remarquable reconstitution, la critique est unanime sur le film. C'est clairement l'événement de ce début d'année, les tirailleurs avec Omar Sy, c'est la sortie. Événement de ce début d'année, c'est au ciné Mazarin dès aujourd'hui. Quel film vous tente, les filles, vous, sur les sorties là qu'on vient d'évoquer? Qui sont quand même pas très très riches, hein, on va l'admettre. Vous battez pas.
Non, bah non. Cet été-là, il a l'air pas mal. Le fait que ce soit deux pré-ados, les personnages principaux, avec un petit peu ce côté. Si on trouve un petit peu le côté de la famille Bélier, donc ouais. Un peu nostalgique, un petit côté un peu poétique, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc cet été-là, c'est celui qui m'attire le plus.
Ça rappelle le mois de juillet et tout, c'est
aussi,
cool,
ça change du froid de janvier.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec Marie cet été-là, mais je crois que ça se passe dans les années 80, non? C'est pas ça?
Non, ça se passe à l'époque actuelle.
D'accord, bon, ça fait rien, c'est pas mal aussi, jouer un peu sur la corde nostalgique de nos jeunes ados, ouais, ça peut être sympa.
Les tirailleurs, étonnamment, ça vous, non?
Oh non,
moins.
Les films
moins.
Historiques, c'est pas trop votre...
J'adore les films historiques, mais je sais pas, ils me tentent.
Moi je suis plus sur la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, d'accord,
et okay. Moi genre très très vieux.
D'accord, ok, ouais. Ouais. Après, ça fait plaisir de revoir Omar Sy.
Oui.
Par contre, je pense que c'est un film ultra important.
Ouais, je pense. Bah, de toute façon, c'est le but aussi d'Omar Sy, c'est ce qu'il explique aussi, c'est que lui, ça le dérange pas de jouer de la politique, de parler de politique, mais uniquement en revanche au cinéma.
Oui, je pense que ce film-là va enfin faire avancer les choses pour la mémoire de ces personnes quand même qui sont venues défendre la France et puis aussi pour leurs descendants, quoi.
Oui, c'est un film important. Enfin, c'est un message important à transmettre.
Et c'est le premier film, donc, événement de ce début d'année. Et puis, je le disais tout à l'heure, une nouvelle année cinématographique nous attend. On va voir ensemble ce qui arrive dans les semaines, les mois à venir, juste après celle qui sera, justement, en concert sur les écrans du cinéma Mazarin le 27 janvier. C'est encore Billie Eilish, restez avec nous. Did you think I'd show up in the machine? To save my money for security. Got a stock of walking up and on the street. Says he's Satan, and he'd like to meet. I bought a secret house when I was 17. Haven't had a party since I got the keys. Had a pretty boy over, but he couldn't stay. On his way, I made him sign an NDA. Think about a new career somewhere in Kauai.
gave him something he can cry about. I thought about my future, but I want it now.
D'écouter Billie Eilish, j'ai encore failli me faire
oui,
hein.
Tout à fait.
Elle a pas une musique qui se finit normalement. C'est brut, c'est comme ça. Vous venez d'écouter Billie Eilish, rediffusion de son concert le 27 janvier. C'est un vendredi à 20h et vous pouvez déjà réserver vos places soit à l'accueil du cinéma Zarin ou sur internet. Avant que Marie nous ressorte son film du grenier, le premier de 2023, on va voir ensemble, avec toi Marie, avec Laetitia en technique, les films à venir courant 2023. Alors là, peut-être qu'on va se battre un petit peu, j'ai fait un pêle-mêle des gros films qui allaient sortir. Alors, il y a des gros films français, parce que Cocorico quand même, et puis il y a des grosses productions américaines, voire internationales. Et puis on commence avec le film français qui arrive peut-être le plus attendu. Il sort le 1er février, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet avec un gros casting. C'est, pour l'instant, c'est le film français le plus attendu de ce début d'année.
J'ai du mal à comprendre, hein, mais...
Laetitia, non, t'es pas d'accord avec ça ?
Bah si, il est très très attendu ce film-là. Moi, c'est pas ma cam, mais après, il y a un public, hein.
Vous allez voir, ça va faire un carton.
Ah mais
j'en doute pas,
ça va faire un carton, mais moi il m'intéresse pas. Hein.
Moi je parie sur le plus gros succès de 2023 en film français.
Tu penses ?
Ouais, je pense.
Bah oui, c'est possible.
Ouais, c'est possible.
Et en plus Guillaume Canet, ça va, il y a un casting quand même.
Et mais moi je le vois pas du tout en Astérix, Guillaume Canet.
Mais ouais, moi non plus. Hein.
Je sais pas.
Et puis après le casting c'est cool, mais ça fait pas tout. Hein.
Il y a quand même Zlatan Ibrahimovic.
Oui, mais ça fait pas tout.
Pour les amateurs de football, vous savez qui c'est. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances en football.
Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça?
Tu sais qui c'est, Zlatan?
Oui, je sais qui c'est, Zlatan.
Bon, on parle d'un autre film. On ira le voir ensemble, Astérix.
Oh purée, non.
The Fablesman, c'est le prochain film de Steven Spielberg. Ça parle de sa jeunesse dans les années 50, mais ça parle surtout aussi de l'envie qu'il a eu de devenir réalisateur, pardon, et ça sort le 22 février, ça, par contre.
Ok.
Ça va être intéressant.
Ah ouais, ça, je pense que c'est un film qui va envoyer.
Un biopic créé, réalisé par la personne qui raconte sa vie. Ça, c'est assez original. Après, à voir aussi quelle optique il va y avoir et quelle direction il va y avoir.
Ouais.
Killer of the Moon, le prochain Martin Scorsese avec le duo, surtout Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, en mai 2023. Mesdames, vous êtes contentes?
Contente du film, pourquoi pas? Oui, il a l'air intéressant.
Et puis on repart dans les productions françaises.
Okay.
Alibi.com 2,
oh non.
Le retour de la bande à Fifi. Le premier volet avait très très bien marché. On va voir ce que va donner le deuxième volet. Dans cette histoire, le héros qui est donc joué par Fifi, Philippe Lachaud, se marie. Il y a toujours Didier Bourdon, il y a toujours toute la bande qui entoure Philippe Lachaud. Ah non, toujours pas.
Toujours pas.
Je voulais te proposer Astérix et Obélix et Alibi.com 2.
Ah, ça tombe bien.
Ils veulent faire un remake des deux après ensemble. Ils aident Astérix et Obélix à pas mentir et tout.
Ah, ouais, bah oui. Hein. Ils font un
crossover.
Un crossover, merci, c'est le mot que je cherchais.
Et puis, un film qui arrive très vite, c'est le 13 janvier. Celui-là, je pense que je vais aller le voir. Pourquoi ? Parce que Tom Hanks, ça s'appelle Le pire voisin du monde. C'est inspiré d'un roman, mm-hmm. et c'est adapté au cinéma. Et c'est Tom Hanks qui joue en personne aigrie et qui va réussir à un petit peu moins bien vieillir que ce qu'il a commencé grâce à ses voisins.
Ok.
Non ?
Si. Pourquoi ? Si, si.
Ouais, Tom Hanks, pourquoi pas, grand acteur.
Oui, voilà, déjà Tom Hanks.
Voilà, voilà, quand on voit sa filmographie.
Bah, puis il a eu une belle promo sur TF1 parce que Forrest Gump est quand même passé à
21h.
Et le lendemain à 14h. Donc, sachant que le film dure 6h30, bah en fait, il était terminé, il est reparti direct. Creed 3 avec le retour de Michael B. Jordan dans son rôle phare, son rôle le plus important de sa carrière, j'imagine. Ça sort le 3 mars.
Ok.
Creed 3, moi j'avais vu le 1, j'avais beaucoup aimé.
Le 1 était vraiment cool.
Ouais, le 2, j'avoue que j'avais un petit peu moins...
En fait, j'espère qu'ils vont pas faire Creed 8, tu vois.
Ouais, comme les... c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure en antenne, c'est comme Rocky, quoi.
Voilà.
Ça va s'essouffler au bout d'un moment.
Ouais.
Letty, tu as un avis
Moi, j'aimais bien les Rocky.
Ouais.
Voilà, bah,
mais t'es un peu la génération. Bah oui, non, méchant, mais t'es clairement la génération
c'est,
Rocky.
C'est justement ce que j'allais te dire. Moi, je fais partie de cette génération qui a grandi avec les Rocky. Après, j'ai un peu plus lâché. Donc, Creed, bon, bah oui, voilà, c'est quand même un personnage important. Mais jusqu'à suivre les films Creed.
Alors que toi, nous, à l'inverse, on est plus la génération Creed, mais qui nous a fait découvrir Rocky et qui nous a fait aimer ou pas aimer, selon les goûts, Rocky en fait. Et puis, là, Laetitia, je te laisse la parole parce que on va parler de Insidious 5.
Ouais, Insidious 5.
Le 7 juillet.
Insidious, les deux premiers, gros cartons, gros films, gros chefs-d'œuvre. J'ai tendance à trouver que la suite commence à s'essouffler, donc on va voir si le 5 redonne un petit peu de peps à tout ça. Je sais pas, Marie, si tu...
Bah, j'ai beaucoup aimé Insidious 1 et 2. Mm. J'ai pas vu le 3 et 4. Donc peut-être l'occasion de les rattraper pour la sortie du 5. Donc après, à voir.
Par contre, il y a d'autres films d'horreur qui vont arriver là. Et moi, que je garde dans mon viseur de très très près, il y a Terrifier 2. Donc ça, c'est avec un clown diabolique. C'est le film qui a fait vomir l'Amérique.
Toutes des sorties cinéma ?
Sorties cinéma.
Okay.
Ça fait beaucoup parler dans le monde des amateurs du film d'horreur. Donc j'ai pas vu le 1, mais je pense que je vais justement le regarder juste avant que le 2 sort. Je crois que ça sort là au mois de janvier. Et puis il y a aussi Scream 6, qui arrive. Le 5 était sorti l'année dernière, mais sous le nom de Scream. Là, on a Scream 6 qui va arriver en mars. Et puis il y a le nouveau.
C'est quoi l'histoire des Scream ? J'ai jamais vu. En vrai, je vous le dis, j'avais vu un
Scream. C'est. On peut ranger ça dans le. Alors, c'est du film d'horreur, mais.
On peut dire que c'est
plutôt
du slasher.
C'est du slasher. Avec un tueur qui est The Ghostface.
D'accord.
Sauf que le premier Scream, en fait, s'applique à déconstruire le film d'horreur. C'est-à-dire que pour échapper au tueur, il ne faut pas répondre à tout.
Les clichés
du film d'horreur, c'est-à-dire aller dire je reviens tout de suite, coucher,
boire,
voilà, tout ce qui fait que dans les slashers de première génération, on se faisait tuer, les personnages se faisaient tuer au fur et à mesure. Là, le slasher se revisite, ça sort en 96, je crois, premier Scream, et ça va redonner vraiment un souffle au slasher. Et là, depuis l'année dernière et depuis le Scream 5 qui s'est appelé Scream, on repart encore sur une nouvelle génération et ça relance encore un peu le truc qui s'était essoufflé avec les Scream 3 et 4.
Donc, rendez-vous donné pour les amateurs d'horreur, d'épouvante.
Alors, ça fait pas hyper peur, un Scream, je tiens tout de suite à le dire, mais plutôt pour les amateurs de « Tiens, qui est le tueur ?»
Ça fait moins peur que Insidious ?
Ah oui.
Ah oui.
Ouais, ok. On finit avec un autre film qui sort. Et alors là, on peut dire un ovni entre guillemets. C'est-à-dire que c'est assez étonnant de voir ça. Moi, j'ai entendu l'info à la radio quand je venais au taf. En fait, Emmanuel va ressortir le film de Charme qui est sorti en 80...
C'est dans les années 80 ou fin 70
86.
Alors là...
Bon, qui est sorti en tout cas avant 90.
Oui, largement. Mais je verrais même ça à la fin des années 70. Et la musique, c'était Pierre Bachelet.
Ah ouais, donc c'est de dire. Tu connais Pierre Bachelet?
Non, pas du tout.
Bon, je t'en chanterai toute la journée.
Oh non, au secours. Yes.
Eh bien, ça revient dans une nouvelle génération. Et l'actrice qui jouera Emmanuel est Léa Seydoux. Okay. La très belle Léa Seydoux.
Ok, voilà. Bah...
celui-là, j'irai le voir.
Ça m'étonne, tiens.
Tu viendras pas avec moi, Marie? Oh.
Tu veux m'emmener au cinéma?
Moi, j'irai voir Emmanuel avec deux LE et toi, tu iras voir Emmanuel avec un seul L.
Si tu veux.
Ça, c'est une bonne idée, ça.
Si tu veux.
Bon, et puis, on finit avec le dernier film. Alors, je l'avais pas noté dans ma liste, mais Marie m'en a parlé hors antenne parce que.
Ah oui.
Marie se moque de moi pour Astérix et Obélix et pour Alibi.com 2, mais Marie a quand même très hâte d'aller voir un film au cinéma.
Oui.
Vas-y,
j'ai
très
hâte d'aller voir le film Barbie de Greta Gerwig. Oui, tout à fait.
Oh putain. Oh non. Barbie.
Oui. Franchement, ça a pas l'air d'être une histoire Barbie
mais
classique.
Tu mets Gulli à 8h30, c'est bon.
Eh, ça va, hein. Non, mais ça a pas l'air d'être une histoire Barbie classique, ça a l'air d'être un peu plus genre une parodie.
Oui, c'est vrai. Donc, oui.
Il a l'air. Enfin, même la bande-annonce me fait énormément rire avec les petites filles qui défoncent leurs poupées. Genre,
parce qu'elles voient la grande poupée qui
c'est ça, donc,
est incarnée par Margot Robbie.
Margot Robbie, ça me fait. Voilà, bon, actrice, clairement actrice banger des dernières années, hein,
oui,
on peut
oui,
le dire.
Oui, c'est vrai.
Le film m'attire premier degré.
Et c'est qui joue Ken, c'est
Ryan Gosling.
Ryan Gosling, voilà, exactement.
C'est vraiment ils ont vraiment pris les meilleurs acteurs pour les personnages.
Et puis Ryan Gosling qui est un petit peu aussi habitué aux films d'autodérision,
aussi.
un peu parodique. Ouais.
Voilà, du coup, enfin, je m'attends à quelque chose vraiment de parodique, de drôle. Mais pas de gnangnan ou de niais, donc.
Je crois que c'est juillet 2023.
Oui, juillet 2023.
Juillet ou août 2023.
Donc moi, oui.
Rendez-vous cet été.
Il m'attire, hein, je suis désolée.
Voilà, donc c'est une partie des films événements de cette année 2023, même s'il y en aura évidemment d'autres, on en parlera tous les mercredis dans les sorties ciné, mais on parle aussi de films sortis il y a quelques années et que Marie ressort de son grenier, et tout de suite on parle de ce film-là.
Tu ignores ce que c'est, n'est-ce pas ? C'est de l'or aztèque. Et cet or, les dieux païens l'ont protégé par une terrible malédiction.
Notre quête a duré 10 ans. Nous avons retrouvé jusqu'à la dernière pièce, à l'exception de celle-ci.
Tu es là, ma petite.
Ils ont enlevé Elisabeth.
Bienvenue à bord du Black Pearl.
Il faut tout faire pour la sauver.
Et par où penses-tu commencer ?
Par Jack Sparrow. Il a parlé du Black Pearl. Allions-nous avec lui, il peut nous y conduire.
Qui nous autorise à parler sur ce ton ? Vous n'êtes qu'un forgeron.
Tirez-moi de cette cellule, et sans nul doute, je vous conduirai au Black Pearl et à votre jolie demoiselle.
Mais tu es pirate, toi aussi.
Tu oublies un détail fort important, mon garçon. Tu n'as pas affaire à des pirates ordinaires. Certes, ils sont cruels, à demi-fous et féroces. Mais surtout, on ne peut pas les tuer.
Dis au revoir.
Au revoir.
Le clair de lune nous montre tel que nous sommes vraiment.
Très intéressant. Nous avons été maudits.
Je n'ai pas peur de vos histoires de fantômes.
Ce ne sont pas des histoires, mademoiselle Turner, c'est la réalité. Vous vous rappelez tous le capitaine Jack Sparrow ? Tuez-le ! Je vais t'apprendre ce que c'est que d'avoir mal.
Si tu aimes avoir mal, mettons un corset.
Ils approchent.
Pirates des Caraïbes. La malédiction du Black Pearl.
Donc oui, aujourd'hui Théo, on s'attaque à un pilier de la culture populaire, je pense qu'on peut le dire, puisqu'on va parler de Pirates des Caraïbes, un film de Gore Verbinski sorti en 2003. Donc un film que je pense vous connaissez tous, ne serait-ce que de nom.
Ou alors si vous êtes déjà allé à Disneyland.
Oui, voilà.
Faire l'attraction, par exemple.
Mais si ce n'est pas le cas,
moi,
pas d'inquiétude, on va en parler tout de suite. C'est vrai, c'est ton attraction préférée de Disney.
Ouais, vraiment, ouais, je te jure.
Bah, je te crois.
Parce qu'elle fait pas trop peur et puis.
Oh non, elle, c'est vrai qu'elle est sympa.
Ouais. Sauf à un moment donné, quand ça descend dans le noir là, et que ça va vite, oulala.
Oh, t'as un petit peu peur. T'es un petit peu les chocottes.
Mais j'aime bien, ouais.
Et c'est pas justement l'attraction qui a donné naissance au film.
Si, justement, on va en parler tout de suite. Si, si, tu vas comprendre, t'inquiète pas. Donc, Pirates des Caraïbes, comme son nom le laisse supposer, c'est un film de pirates. Hein. Et c'est un film où on y suit trois personnages en parallèle. Donc, Elizabeth Swann, fille du gouverneur de Port-Royal et qui possède une très forte curiosité pour la piraterie. William Turner, un jeune forgeron amoureux d'Elizabeth. Et pour finir, le culte, le grand, le magnifique, le capitaine Jack Sparrow. Pirate solitaire et désœuvré dont le ridicule et la folie n'ont d'égal que le génie. Ces trois personnages se retrouvent propulsés dans une aventure peu commune lorsque le Black Pearl, un bateau pirate de légende, attaque Port-Royal et enlève Elizabeth. Pour sauver la femme qu'il aime, Will s'alliera à Jack Sparrow qui, on l'apprendra plus tard, est l'ancien capitaine du Black Pearl, dont l'équipage s'est mutiné et l'a laissé pour mort sur une île. Pendant que ces deux hommes se lancent à la poursuite du bateau, Elizabeth découvrira la raison de son enlèvement. L'équipage pense pouvoir conjurer la malédiction qui les frappe grâce à son sang. Un film trépidant où se mêlent aventure, action et magie. Un film qui a tellement plu qu'il lancera une franchise très lucrative à sa suite. Et pourtant, ce n'était pas du tout parti pour être une réussite. Il faut savoir que le film fait partie d'une sorte de trio de production, puisqu'à la même époque, Disney, le studio d'où sortent Pirates des Caraïbes, veut réaliser des films inspirés de certaines des attractions du parc Disney World. Donc oui, je parle bien de films inspirés d'attractions, et pas l'inverse. Ces trois films sont donc Pirates des Caraïbes, hein, bien sûr, mais aussi Le Manoir Hanté et Les 999 Fantômes, qui sont inspirés du coup des manoirs hantés de Disney, et Les Country Bears, qui sont inspirés d'une attraction un peu semblable à Pirates des Caraïbes, mais avec des ours qui chantent. Donc des films dont vous n'avez donc peut-être jamais entendu parler, car ils n'ont pas fait beaucoup de bruit et ne sont pas vraiment considérés comme de très bons films, n'ayant des budgets pas vraiment exceptionnels et n'étant vus que comme des publicité pour les attractions dont ils sont inspirés. Et à la base, l'aventure de Jack Sparrow devait avoir le même traitement. Ce ne devait être rien de plus qu'un petit film sans prétention qui avait pour but d'attirer le public dans le parc. Mais quelque chose a tout changé. L'amour de l'équipe pour le film. Il se trouve que l'équipe derrière Pirates des Caraïbes était persuadée de pouvoir en faire un grand film. Mais à part eux, personne n'y croit. Surtout que les films de pirates, ça a plus vraiment la cote dans les années 2000. C'est un type de film qui est vu comme très daté, très kitsch. En clair, un type de film qu'on ne prend pas au sérieux, qui est mort et enterré.
Ouais, affilié aux Vikings et compagnie.
C'est ça, c'est des films en fait de cap et d'épée avec un héros toujours parfait, un pirate. C'est vraiment vu comme quelque chose de très, très
même
kitsch.
Même si là, le personnage du pirate, il est un petit peu... il est un petit peu plus déluré que les autres personnages.
Justement, c'est ce qui fait aussi la différence, que clairement, les personnages ne sont pas du tout écrits comme des films de pirates de l'époque, où vraiment c'était le beau pirate avec qui enlevait la jeune femme, avec une belle histoire d'amour, avec... Voilà, c'est du KPP. Là, on a vraiment... déjà, il y a deux héros principaux sur trois qui ne sont pas des pirates, à la base.
Oui.
Et le dernier, il est totalement taré, donc bon... et pourtant, du coup, cette catégorie de films qui ne se fait plus, les scénaristes et les réalisateurs, ils y croient dur comme fer, et ils vont un petit peu forcer la main aux producteurs pour que le projet se fasse malgré tout. Donc ils vont dépasser le budget à plusieurs reprises, ils vont délocaliser totalement le tournage aux Caraïbes au lieu de tourner en studio comme c'était prévu. Bref, ils y vont à fond, ils croient en leur film, et ils croient en leur bébé, et ça donnera, d'ailleurs, pour Gore Verbinski, il va même lui s'attaquer à des effets spéciaux de nouvelle génération, ce qui n'était pas du tout prévu pour le film. Hein. Ça devait vraiment rester quelque chose de petit, quelque chose de... Oui, ça devait rester un film bas de gamme, on va dire. Et lui, non, il se démène et...
Il y a une vraie prise de risque.
Il y a une prise de risque, c'est ça. Donc, il essaie des nouveaux effets spéciaux pour donner vie à l'équipage maudit du Black Pearl. Et il prend des risques, il tente des choses. Et tout au long de la conception du film... ils vont dépenser et dépasser le budget pour un total de 140 millions de dollars de budget. Donc un investissement à perte, selon Disney, qui est toujours persuadé à la veille de la sortie du film que ce sera un énorme flop.
Ouais.
Et pourtant, le jour de la première, le film fait grand bruit. Puis les jours d'après également, et finalement, sans que personne ne s'en doute, le film fait un carton. Et même à l'international, Pirates des Caraïbes, c'est un succès immédiat qui rapportera l'année de sa sortie un total de 654 millions de dollars au box-office, dont 305 millions rien qu'aux États-Unis et au Canada.
Ah oui.
Donc un succès qui ne lâche pas le film, puisqu'aujourd'hui encore, le second volet est un des films les plus rentables du monde, avec plus de 1 milliard de budget de recettes. Donc un succès qui n'a commencé qu'à s'essouffler avec le dernier opus en date, La Vengeance de Salazar, qui a beaucoup divisé et dont la plupart des fans ne reconnaissent pas vraiment l'existence.
Ils ont dit que ça s'essouffle, quoi.
C'est ça. Donc cela dit, la saga Pirates des Caraïbes semble loin d'avoir pris fin, puisqu'il semblerait que de nouveaux films soient prévus, bien qu'on n'ait pas de date de sortie. En revanche, on dirait bien que la saga se poursuivra sans le capitaine Jack Sparrow. La saga décide de changer de personnage, un univers assez vaste, ils peuvent
Johnny
se le permettre.
Depp, il est trop occupé dans la paperasse là en ce moment.
C'est ça. Il est donc bien possible que le capitaine Jack Sparrow ait définitivement quitté le grand écran. En attendant, n'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir cette merveille des années 2000. Si vous êtes en soif d'aventure, vous ne pourrez pas être déçu.
Et peut-être qu'on pourra en reparler
peut-être
un certain mercredi de cette rumeur, d'une rumeur
c'est
du
vrai,
nouveau Pirates des Caraïbes.
On pourra sûrement reparler peut-être avec Margot Robbie, on ne sait pas.
Pourquoi pas, ouais. Et Ryan Gosling en Barbie dans Pirates des Caraïbes.
C'est pas une blague, il y a vraiment des idées de Margot Robbie pour les prochains Pirates des Caraïbes.
Ouais, de toute façon, elle est partout.
Oui, elle est partout en ce moment.
Partout. Voilà, c'est la fin de cette première d'action de 2023. C'est un plaisir de la faire avec vous, mesdames. Merci.
Plaisir partagé, Théo.
Merci. Et puis rendez-vous donc mercredi prochain pour parler des films à venir. On se retrouve, nous, rendez-vous à 13h avec mon invité Emmanuel Dumont. On reste encore dans l'univers cinéma. Il est chargé de communication pour Cinequanon. Et on va parler du retour du cinéma itinérant. Et on va parler de films, d'ailleurs, qu'on a parlé récemment, Le Torrent et Le Chat Poté 2, dans toutes les villes, dans plusieurs villes de la Nièvre. On en parle à 13h avec mon invité. À tout à l'heure.
Silence ! Moteur !
Allons-y !
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre !
Moteur ! Et action !